Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maier-Pacini. Salut Guillaume!
Bonjour Johan et bonjour tout le monde.
Guillaume, on l'avait évoqué dans notre dernier podcast où on avait parlé du changement d'entraîneur sur le banc de la Roma avec le départ de José Mourinho. Et donc, on s'était dit, on va essayer de faire une petite analyse du premier match de Daniele De Rossi qui a eu lieu ce week-end. Victoire de la Roma 2-1 face à l'Hellas Vérone. Alors déjà, évacuons tout de suite un sujet. L'Hellas Vérone, c'est compliqué. Même s'il restait quand même sur deux victoires sur les quatre derniers matchs, mais c'est surtout que l'équipe est en train d'être dépeuplée.
Voilà.
Clairement, ils ont perdu Taraciano qui est allé à Milan, ils ont perdu Ngonge qui est allé à Naples, ils ont perdu. Est-ce que tu as l'autre que je n'ai plus en tête? Doig qui est parti à Sassuolo.
Exactement, j'allais dire surtout pour ceux qui ne le savent pas, ils sont vraiment dans une. Même au niveau judiciaire, parce qu'il y a des enquêtes autour du club, le président a pris un tourment. Donc, c'est vraiment une équipe qui est en grande difficulté en dehors du terrain et par ricochet sur le terrain avec toutes ces affaires-là qu'il y a autour.
Voilà, et donc, ils ont besoin de pas mal d'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de vendre un peu tous les bijoux de famille et on verra s'il y aura des répercussions sur le maintien ou pas en Serie A. Déjà, Guillaume, au niveau de l'accueil autour de ce match, parce qu'on a vu dans la semaine, on l'a dit dans le podcast, hein, contestation de certains supporters envers les dirigeants, des chants à la gloire de José Mourinho, évidemment beaucoup de positifs autour de l'arrivée de Daniele De Rossi. On a eu cette espèce de melting pot lors du match contre l'Hellas Vérone également, puisque on a eu des banderoles pour José Mourinho, on a eu il y a le fameux chant José Mourinho qui a aussi retenti dans les travées de l'Olympico, notamment du côté de la Curva Sud, et on a eu surtout un très bel accueil pour Daniele De Rossi qui, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve a plutôt bien géré ses émotions.
Écoute, pour toi, ça ne devait pas être facile parce que voilà, ouais. On a parlé dans notre dernier podcast sur le focus Mourinho, à quel point De Rossi était évidemment attaché et à quel point il vit la Roma quotidiennement et à quel point il l'a vécu. Mais oui, je pense vraiment qu'il a pris sur lui. Il y avait forcément beaucoup d'émotions de la compo des équipes, en passant par l'échauffement, en passant par les chants de la couverture. Donc forcément, ça allait être un peu un mélange d'émotions de revenir à Olympico, d'être sur le banc. Alors quand même, c'était pas forcément attendu, hein, tout ce, voilà, entre le départ de Mourinho, l'arrivée de De Rossi, voilà, c'était assez, hein, pas vraiment dans les clous, mais oui, je pense qu'il a pris sur lui et il a vraiment, bah, tu le sais, il y a quand même une différence entre être joueur et entraîneur. Et là, il est parvenu quand même à être un peu plus froid, ce que parfois il avait du mal à faire sur le terrain quand il avait le maillot de la Roma sur le dos. Là, on va dire que dans un rôle différent, même si voilà, en lui, il devait y avoir beaucoup beaucoup d'émotions, il est quand même parvenu, même par rapport à ses joueurs, à transmettre, on va dire, pas mal de calme. Et tu vois, il n'était pas dans l'extravagance, il n'était pas là à haranguer la foule. Voilà, il a tenté aussi de transmettre cette sérénité-là à son équipe.
C'est clair, on n'a pas vu de surexcitation, même au bord du terrain, parce qu'il est resté debout tout le match. Il n'a pas non plus surdosé les consignes aux joueurs. C'est ce qu'il avait dit aussi, hein, en conférence de presse, en disant voilà, on ne va pas leur donner trop de consignes, trop de changements sur les premiers jours, premières semaines, parce que c'est le meilleur moyen d'amener de la confusion, et etc. Donc, on l'a senti évidemment extrêmement concentré. Un peu ému au début du match, avec aussi à la fin du match la décision d'aller sous le virage pour remercier les gens. Alors il a bien précisé en après-match, hein, je le ferai pas à tous les matchs, hein, mais là il y a eu une telle affection pour son premier match qu'il s'est senti le devoir d'aller remercier les supporters. Guillaume, sur le match, il y a quand même quelques observations à faire. Alors on va tout de suite préciser, hein, c'est un match à domicile contre un mal classé. Donc, il n'y a aucune conclusion à tirer de tout ça. Mais en tout cas, c'est nos premières observations sur le match. Et la première chose, qui n'est pas la plus importante, parce que c'est ensuite ce qui a été montré sur le jeu, mais il y a eu une première indication qui a été quand même importante, Guillaume, c'est le passage du fameux 3-5-2 de Mourinho au 4-3-2-1 de Daniele De Rossi. Donc, pour donner une idée, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, il y avait Karsdorp. Huijsen, Llorente et Spinazzola en défense sur une défense à 4. Au milieu de terrain, il y avait Paredes devant la défense, à ses côtés Pellegrini et Bove. Et ensuite, dans les deux derrière l'attaquant, il y avait Dybala, El Shaarawy, derrière Lukaku et Rui Patricio, donc dans les buts. Donc défense à 4 à plat. Mourinho disait que c'était impossible avec ce. Notamment le profil de ses défenseurs centraux, dans lequel il englobait d'ailleurs Mancini et Kumbula, hein, qui n'étaient pas là sur ce match-là. Enfin, Kumbula, ça fait bien longtemps, même s'il est en train de revenir. Et il y a un autre élément tout de suite à dire, Guillaume, c'est que Mourinho avait commencé avec une défense à 4. Fonseca avait fait plusieurs mois avec une défense à 4. Et tous ont fini par revenir à une défense à 3 avec le profil des joueurs et ce sentiment de. Ils sont plus en sécurité avec ce schéma-là. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand la Roma souffrait vraiment beaucoup, eh ben Daniele De Rossi a décidé de repasser à 3 derrière et de mettre deux attaquants, donc de passer un 3-5-2. Ça, c'était la première observation importante, Guillaume, sur le match.
Ouais, exactement. Il y a eu un changement de système, mais il y a une différence, tu l'as dit, entre les deux mi-temps quand même et au moment où c'est un peu plus compliqué pour la Roma. Je pense que le réflexe instantané des coachs, c'est souvent de passer sur une assise, on va dire, tu sais, plus défensive, plus cadré derrière. Alors, est-ce que ça va perdurer sur les prochains mois? On va le voir. De Rossi, il est arrivé en début de semaine. Et voilà, pour lui, c'est aussi. Alors, évidemment, il connaît l'équipe parce qu'il la suivait. Il la suivait de loin, on va dire. Donc, il connaît le profil des joueurs. Il sait bien les lacunes aussi mentales. On a souvent parlé de cette formation, mais voilà, au moment où c'était plus compliqué, elle a voulu prendre un peu moins de risques, à ramener le score à la maison, parce que dans un moment aussi compliqué, c'était le plus important. Mais on va dire que pour l'instant, forcément, il tâtonne un peu, mais sur le schéma tactique, pour le coup, c'était peut-être pas le plus important de ce qu'on a vu samedi, même si ça donne quand même une indication sur ce que peut proposer De Rossi et sur l'idée qu'il a quand même de cette équipe et des profils du joueur.
Sur la proposition de jeu, Guillaume, la première mi-temps était très agréable. Côté Roma, plus de jeux au sol, ça c'est clair, beaucoup moins de longs ballons sur le numéro 9 ou les numéros 9 quand ce Mourinho alignait le duo Lukaku-Belotti. Il y a notamment des séquences de jeux au sol très intéressantes sur le fameux système avant-arrière, sorte de construction en escalier, d'appui-remise perpétuelle et de prise d'espace, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Et on a senti que c'était peut-être la chose qui avait été la plus travaillée à l'entraînement depuis l'arrivée de Daniel Eder aussi, où là, ça changeait vraiment du tout au tout avec ce que proposait cette équipe sous José Mourinho. J'ai vu aussi plus de rythme, plus de mouvement de joueurs, cette volonté aussi d'accompagner les actions offensives et le but de Pellegrini, le deuxième, est aussi révélateur un petit peu de tout ça, c'est-à-dire quand Lukaku, le ballon parvient à Lukaku, qui est légèrement excentré à droite, il y a trois joueurs qui se projettent dans la surface. Et on ne l'avait pas toujours avec José Mourinho, et notamment Lorenzo Pellegrini. Certains diront, est-ce que c'est un hasard que Lorenzo Pellegrini redevienne le Lorenzo Pellegrini plus influent dans le jeu, beaucoup plus recherché par ses coéquipiers, buteur également, peut-être pas tant que ça. Finalement, celui qui a eu un petit peu plus de mal, je trouve, à s'insérer dans cette équipe, mais ce qui peut s'expliquer aussi par visiblement Guillaume, encore un petit problème musculaire, c'est Paulo Dybala, puisque De Rossi avait dit que dès l'échauffement, il a senti quelque chose, sans trop savoir ce que ça pouvait être, et bon, on a bien vu qu'il n'était pas à 100%, et sur cette première mi-temps, il était. Alors, je ne vais pas dire toujours, parce qu'il a eu des moments où il a été vraiment dans cette recherche de jeu. Mais c'est des joueurs offensifs, c'est celui qui a été le moins connecté à l'équipe et peut-être le moins influent dans l'élaboration du jeu.
Bah, surtout, Johan, je pense que De Rossi, il est lucide sur la situation de Paulo Dybala, qui est un joueur avec des qualités intrinsèques exceptionnelles. Là-dessus, ça ne se discute pas, mais on le voit dans cette saison. Et on l'a toujours vu avec Dybala, même à la Juve, c'est que voilà, il joue 60% des matchs. Donc, le problème, c'est que faire reposer sur un seul joueur, alors que tu n'es pas certain qu'il soit là lors du prochain match, c'est trop compliqué. Et c'est un peu quand même, Johan, ce qu'il se passait avec Mourinho. Et d'ailleurs, Mourinho l'assumait, même après les matchs ou avant, où il disait que voilà, il y avait une Roma avec, une Roma sans Dybala. C'est compliqué de donner toutes les clés à un joueur, voilà, alors qu'il n'est pas toujours là et qu'il a quand même un physique, comment dire, très très
Sensible,
friable,
ouais.
voilà, sensible, friable. Donc oui, c'est. Je pense qu'il y aura quand même une recherche à travers le jeu de se passer aussi de Dybala. Alors, une fois qu'il est sur le terrain, c'est compliqué parce qu'il attire aussi forcément les ballons et ses coéquipiers ont tendance à se reposer sur lui, voilà, ce qui peut être aussi naturel dans les mécanismes qu'avait instauré José Mourinho. Et quand on connaît aussi les qualités de Dybala, donc il y a aussi un réflexe, on va dire,
Bien sûr.
technique dans certains mécanismes. Mais la Roma doit aussi apprendre à jouer sans Dybala. Et tu
Ou
l'as
avec
justement
lui,
dit.
mais
Mais
différemment.
différemment, exactement, exactement. Mais en tout cas, être moins dépendant de Dybala. Et je pense que De Rossi en est parfaitement conscient. Et c'est aussi pour ça qu'il va probablement tenter, voilà, d'inculquer avec le peu de temps qu'il aura, bah, voilà, d'autres mécanismes, d'autres principes de jeu. Et comme tu le dis, utiliser différemment Dybala, voilà, qu'il soit pas au centre de tout, même si parfois ça peut être un peu le réflexe de ses coéquipiers. Qui est assez logique quand on a vu la Roma de ce début de saison.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais là, je l'ai moins vu ce réflexe en première mi-temps. Alors, il sort assez rapidement en deuxième mi-temps et dit voilà. Mais je l'ai moins vu et j'ai vu surtout beaucoup plus de recherches de Pellegrini.
Parce qu'il a les qualités pour justement aussi prendre le
C'est
jeu en
ça,
main,
c'est
Johan, tu
ça.
vois.
Et à la fois aussi, tu sais, sur les constructions lentes, mais aussi en, tu sais, en recherche tout de suite de la profondeur. On le voit, le but de Lukaku, c'est le ballon parvient à Pellegrini, hop, extérieur du pied tout de suite pour lancer la course d'El Shaarawy. Donc, il est très utile pour ça. En plus, je trouve qu'il peut être assez complémentaire de Dybala. Tu vois, Dybala aime toucher beaucoup plus le ballon finalement. Pellegrini, un joueur un peu plus direct où il y a un peu plus de prise de risque assumée. Alors parfois plus de perte de balle aussi, mais par contre cette volonté de verticaliser assez rapidement, je trouve que ça va bien avec l'évolution du foot où il faut que tu aies des milieux de terrain qui soient capables aussi de, sur un pas, sur une touche de balle, sur un contrôle orienté, de tout de suite lancer un joueur qui prend l'espace. Donc on verra si ça va durer. Juste pour terminer sur cette première mi-temps, un élément sur le pressing, j'ai pas senti une... On n'a pas vu un pressing hyper haut, asphyxiant, on n'est pas du tout dans cette recherche-là pour l'instant. Plutôt une ligne de pression, de première pression autour de la ligne médiane, sans doute aussi pour donner un peu plus de sécurité à ces joueurs. Sans doute aussi, j'entendais sur la retransmission du match sur DAZN que De Rossi demandait à ses défenseurs de défendre plus haut. Tu vois, il avait dit notamment à Llorente, c'est toi qui commandes la défense aujourd'hui, c'est à toi de faire remonter le bloc, etc. Et peut-être qu'il y avait un peu un réflexe, tu vois, chez les joueurs de s'abaisser un petit peu là où De Rossi voulait que ça défende un petit peu plus haut. Donc on verra la proposition un peu plus tard. Mais en tout cas, je trouve que cette première mi-temps, sur quelques principes, pardon, reflète assez bien ce que veut essayer d'amener Daniele De Rossi. Maintenant, si on passe à la deuxième, Guillaume, mi-temps. Là, par contre, c'est nettement plus compliqué. De Rossi disait, il n'a pas du tout, enfin, il n'a pas mis l'accent sur le côté, tu sais, un peu psychologique, mental, un peu la trouille, etc. Lui, il a dit, dès qu'on joue un peu moins intense, que le ballon circule moins vite, bah, c'est plus facile pour les Las Véron de venir nous chercher dans les pieds et donc de gagner des duels, de contrer des ballons, de, entre guillemets, salir un petit peu notre jeu, pas salir dans le sens faire des fautes, hein, mais de le rendre beaucoup moins fluide du côté de la Roma. Je pense qu'il y a un peu des deux quand même, parce que j'ai il y a des attitudes, Guillaume, sur la deuxième mi-temps, tu te dis, ouais, les mecs, ouais, ils sont quand même pas très en confiance. Hein.
Et forcément, déjà au niveau des résultats, avant l'arrivée de De Rossi, ce qui est compliqué. Et même si voilà, après le match, il n'a pas voulu, on va dire, se concentrer sur le mental de ses joueurs, forcément, il y a eu le pénalty raté, Johan, un peu plus tôt
Et puis
que
bien
le
raté, hein.
2-1, est bien raté, qui aurait pu, voilà, on va dire, rendre un peu plus compliqué la fin de match, parce que la Roma a pris un but après, mais on va dire qu'il restait aller entre 10 et 15 minutes pour défendre le score, mais c'est vrai qu'on voit bien une équipe qui est fragile au niveau de mentalement déjà, parce que elle arrive forcément d'une période qui est pas facile du tout, et puis aussi une équipe qui est fragile dans le jeu, c'est-à-dire que une fois qu'elle tangue un peu, c'est compliqué après pour tenir. Là, cette fois, ça a tenu, mais tu sens bien quand même que c'est une équipe qui a besoin de confiance. Et Johan, c'est aussi l'aspect qu'on peut souligner d'arriver de Rossi, c'est qu'on a aussi une communication totalement différente par rapport à celle de Mourinho. On le sait, on en a beaucoup parlé. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, évidemment, est toujours en ligne sur la fin de José Mourinho, même sur l'aventure de Mourinho à la Roma. Mais c'est vrai que Mourinho avait tendance quand même à accabler ce joueur, à souligner leur faiblesse, ce qui n'allait pas. Là, quand même, avec De Rossi, on sent déjà une différence dans la com, c'est-à-dire que lui défend ses joueurs. Voilà, on sent des joueurs aimés déjà, et ça c'est une grande différence par rapport à celle de Mourinho. Et effectivement, t'as encore des failles parce que les joueurs à l'époque, tu le sais bien, ils étaient critiqués. C'est toujours sans Dybala, Lukaku, c'est compliqué. C'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses. Il accède notamment Mourinho certains joueurs. Il pointait le doigt sur certains joueurs. C'était compliqué aussi pour eux. Donc là, vraiment, il y a tout un travail de quasiment des rééducations sur et en dehors du terrain. Mais le travail qui va être fait dans les conférences de presse par De Rossi, au quotidien, que ce soit dans le vestiaire, dans le discours, dans la causerie, il y a un long travail à faire sur les mentalités, sur l'état d'esprit. Et tu l'as dit, Pellegrini, quand même, moi, j'ai même senti un peu plus libéré. Samedi au niveau du jeu, au niveau de la tête, et voilà,
C'est
c'est un
pas le seul,
début.
hein. C'est pas le seul, hein.
Ouais, bien sûr.
Le
bien
match
sûr.
de Karsdorp, j'en ai vu assez peu de Karsdorp par ce niveau-là à la Roma. Certains noteront que c'est peut-être pas un hasard que ça arrive une fois que Mourinho n'est plus là. Mourinho qui, rappelons-le, Guillaume, c'était après un match à Sassuolo, je crois, qu'il avait totalement pointé du doigt Karsdorp en disant, enfin, en ne le citant pas, mais en faisant bien comprendre qu'il y avait un joueur qui avait joué contre l'équipe de la Roma. Et c'est peut-être pas un hasard, Guillaume, si on a vu Karsdorp faire ce type
Et
de match.
surtout, Johan, rappelle-toi, à l'époque, c'était très loin, hein, que les supporters, on en a parlé, hein, qui avaient été devant la maison de chez Calzone pour le critiquer, pour en écouter. Donc, voilà, l'époque Mourinho, il y a eu des moments très, très tendus avec certains joueurs. Et forcément, là, samedi, on va dire, c'est le match d'après. Donc, il y a un long travail, surtout sur les mentalités, que va effectuer d'ailleurs aussi pour redonner confiance à un groupe qui n'en avait plus. Alors, pas seulement à cause de Mourinho, hein, parce que Mourinho n'était
Non.
pas. Voilà, il n'y avait pas toutes les fautes, mais disons que c'est une équipe qui est devenue très fragile sur le terrain. On a vite senti, Johan, après le 2-1, que voilà, que ça tanguait et que ça pouvait être en rupture à tout moment. Donc De Rossi le sait, il y a un travail de confiance à ramener à tout un groupe, à certains joueurs, à certaines individualités, à certaines recrues de l'été dernier aussi, Johan, qui sont toujours pas dans les mécanismes, alors pour diverses raisons, et encore là, pas toujours à cause du Mourinho. Donc voilà, il y a un travail en amont, un gros travail qui doit être effectué par De Rossi. Alors, il aura pas beaucoup de temps parce qu'on le sait, c'est un contrat de 5 mois jusqu'en fin de saison. Il est probable qu'après cette mission express, De Rossi soit remercié, et ça, il le sait. Mais disons que voilà, au-delà du vœu qui était inexistant, on peut le dire, hein, avant son arrivée, là, on a vu des bribes de quelque chose samedi, mais je pense que le plus gros du travail aussi, ça va être sur les mentalités et l'état d'esprit que l'équipe doit retrouver, parce que Johan, il y a aussi la pression des supporters derrière, hein. Faut le rappeler, hein, les supporters qui, voilà, qui ont pas mal critiqué leur équipe, qui avaient été venus à Trigoria pour afficher leur mécontentement, les Friedkin qui sont contestés. Donc il y a aussi autour de la Roma beaucoup beaucoup de tensions, et celle-là, cette tension-là, De Rossi la connaît par cœur, et c'est à lui maintenant à apporter cette tranquillité que lui parfois n'avait pas en tant que joueur, mais comme il le sait, il en est conscient. Peut-être qu'il arrivera à trouver la clé aussi mentale pour redonner confiance à une équipe qui n'en avait quasiment plus.
Moi, je trouve qu'il y a eu des signaux quand même assez intéressants sur ce match-là, même s'il y en a d'autres sur la deuxième mi-temps qui montrent tout le chemin qu'il y a à parcourir pardon, pour la Roma, pour espérer, parce que c'est l'objectif hein, fixé entre guillemets à Daniele De Rossi, c'est d'obtenir cette quatrième place qui est essentielle, pas simplement sur le plan sportif, mais aussi économique. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu marqué, Guillaume, sur ce match-là. Daniele De Rossi n'a fait que 3 changements. Est-ce qu'il faut voir quelque chose là-dedans? Pas du tout. Je sais pas si tu as un avis sur ça, mais tu vois, tu vois l'équipe qui souffrait un petit peu, entre guillemets, qui... En deuxième mi-temps, avait des difficultés, tu sentais qu'ils avaient du mal à ressortir le ballon. D'ailleurs, entre parenthèses, le passage à 3 défenseurs, quand il fait rentrer Belotti, est intéressant parce qu'il y a un double but. Le premier but, c'est de commencer à regêner la sortie de balle de Elias Vérone, parce qu'on avait vu, on commençait à voir des trucs genre Magnani qui fait 30 mètres de ballon au pied. Et c'est... Ok, c'est pas un grand technicien, mais. Ça commençait à amener un certain surnombre dans la moitié de terrain de la Roma qui commençait à devenir un petit peu dangereux pour le club romain. Et le deuxième objectif, c'était d'avoir un deuxième joueur capable de gagner des duels aériens, puisque à ce moment-là de la partie, la Roma défendait en balançant beaucoup de longs ballons, très loin de ce qu'elle avait montré en première mi-temps. Donc je trouve que dans la lecture du match, je trouve ça intéressant, même si je suis loin d'être un technicien et c'est simplement une observation. Mais oui, ça m'a marqué, même s'il y avait beaucoup de jeunes sur le banc, essentiellement des jeunes, qui n'aient eu que 3 remplacements, dont 2 d'ailleurs pour des raisons physiques, c'est-à-dire Spinazzola qui est encore blessé et Dybala qui n'était pas à 100%. Ça veut dire que concrètement, tu as fait un vrai changement hors blessure. Je sais pas s'il faut lire quelque chose là-dedans. On sait qu'il y avait des blessés, des absences, Smalling, Sanchez, Aouar, Ndicka, Cristante. Ok, il y avait beaucoup d'absents. Je sais pas. On verra un petit peu ce qu'il en est. Là, en joueur confirmé, je revérifie la feuille de match. Il y avait que Celik en défense. Sinon, derrière, il restait Pagano, Pizzili et Costa en attaquant. Donc, c'était peut-être aussi cette question-là de s'appuyer sur les joueurs d'expérience. Dans un moment un peu plus compliqué en deuxième mi-temps et pas lancer un jeune à l'abordage un peu dans des situations où tu n'avais pas le ballon, où il fallait surtout fermer les espaces, être fort dans les duels, ce genre de choses-là.
Moi, je pense comme toi, pour le coup. Je
Ouais,
pense
ouais.
qu'après, c'est une clé de lecture qui, tu vois, qui est encore un peu, c'est trop tôt.
Bien
Tu vois, si
sûr.
ça se confirme dans les 3-4 prochains matchs où on voit vraiment qu'il compte que sur un ou autre joueur, là, on pourra en vivre quelque chose. Pour le coup, là, c'est son premier match, il est arrivé depuis 4-5 jours. Comme tu l'as dit, il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Je pense qu'il a voulu se baser sur un groupe plus expérimenté pour gagner, parce que c'est le plus important à ce moment-là de la saison. Et après, peut-être que, voilà, si le banc avait été, il y aurait eu plus de profondeur, disons, peut-être qu'il aurait fait rentrer, on va dire, d'autres joueurs. Mais là, samedi, au vu de la tension quand même de la fin de match, c'est compliqué de faire rentrer des jeunes.
Guillaume, les prochains matchs de la Roma, je suis en train de
Ouais.
vérifier en ce moment même, c'était bien ça. Déjà, mercredi, ils sont en Arabie Saoudite. Ils ont un match amical contre l'Al-Shabaab, puisque ça fait partie du deal qu'ils ont signé commercialement pour avoir Riyad Season sur le maillot. Donc il y avait un deal qui avait été signé à ce niveau-là. D'ailleurs, ça devait être, je crois, pendant les premières dates de la Supercoupe avant qu'elle soit changée. Qu'est-ce que c'est le bienvenu? Bah non, mais en même temps, pour payer le salaire de Mourinho, Dybala et Lukaku, il fallait aussi faire des concessions sportives. Lundi prochain, c'est lundi, hein, le prochain match, Salernitana-Roma. Rappelons qu'au match aller, c'est ça que j'étais en train de double-checker, il y avait eu 2-2 entre la Roma et la Salernitana. Donc Salernitana qui est en perdition, hein, Guillaume, dans cette Serie A qui...
Avec Inzaghi sur la sellette,
Ouais, et puis, bon, c'est pas le sujet du podcast, hein, mais je trouve qu'ils sont vraiment mal payés. Hein. Je trouve qu'il y a des matchs quand même où c'est abouti, qui font plein de choses bien, etc. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment pas de non plus de chance un peu de leur côté pour grappiller des points. Hein. Je trouve qu'il y a eu des... Notamment contre les gros, hein. Il y a eu des matchs qui étaient loin d'être ridicules contre les gros et... où des points leur échappaient. Donc c'est un déplacement qui ne sera pas si simple que ça hein, pour la Roma. On se souvient du match aller, le doublé de Canereva. Et c'était Belotti, je crois, qui a marqué un doublé. Donc attention à ça. Derrière, encore un lundi. La Roma joue deux lundis d'affilée. Roma-Cagliari. Le retour d'un certain Claudio Ranieri à Rome, Guillaume. Là encore, hein, on est certain qu'il y aura un
Ah
très
oui,
bel accueil pour
bien
Claudio.
sûr.
Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je ne pense pas en dire. Je crois que puisque j'y étais, le dernier match de De Rossi à la Roma est sous Claudio Ranieri. Je pense que c'est ça, puisque j'ai en tête la scène à la fin des Romanisti avec il doit y avoir De Rossi, Florenzi, Pellegrini et un autre, je me souviens plus. Je me demande s'il n'y a pas. Non, je sais plus. Il me semble qu'il y a un quatrième joueur aussi. Donc, ce sera des belles retrouvailles aussi entre
Rappelle-toi
De
de Roma
Rossi.
Leicester aussi, hein. Roma Leicester
Ouais, bien
avec
sûr.
quand Ranieri est en larmes, voilà, qu'il applaudit dans les deux camps, c'était une scène toujours magnifique. C'est vrai que Ranieri reste quelqu'un de très très apprécié. D'ailleurs, Johan, imaginons, il aurait été libre après le
Oui.
départ de Mourinho, ça aurait pu être un nom un peu
C'est vrai.
plausible, tu vois, pour
C'est vrai.
revenir à Rome,
Pour faire
assurer
les
l'intérim.
5 mois,
Exactement,
ouais, c'est vrai.
ouais, exactement. Ranieri a toujours eu la Roma dans son cœur et inversement, donc ça reste une personne d'ailleurs très appréciée en Italie en général et dans le monde du football, mais surtout à Rome vraiment où il a laissé une trace très belle
Et c'est
et
un pur
l'accueil
Romain.
qui
Et c'est un pur Romain
exactement,
de ta stature.
exactement, bien
Donc,
sûr. Ah ouais.
et puis juste après, donc Salernitana Cagliari, qui sont deux mal classés, il y aura Roma Inter. Donc là, plus compliqué. Feyenoord Roma en barrage d'Europa League. Ensuite, le match contre Frosinone avec retrouvailles avec Eusebio Di Francesco. Décidément, il y aura beaucoup de retrouvailles
Oui,
pour
c'est vrai.
Daniele De Rossi. Et ensuite, le match retour contre le Feyenoord. Donc il y a Il y a deux matchs là qui peuvent aller dans le sens de. Attention, ce sera loin d'être simple, comme je l'ai dit, qui peuvent aller dans le sens de De Rossi avant on commence à grimper une petite montagne un peu plus compliquée. Voilà ce qu'on pouvait dire, Guillaume, sur la première de la Roma, version Daniele De Rossi. N'oubliez pas d'aller sur le shop calcioepp.shop pour les affiches et les posters dédiés au foot italien. On parlait de la Roma, donc vous avez des affiches où il y a un certain Daniele De Rossi, évidemment. Dans tout ce méli-mélo de joueurs historiques de la Roma, mais vous avez aussi la Juve, le Napoli, le Milan, l'Inter, les affiches que t'aimes bien, Guillaume, les affiches vintage, Italie, Calcio EPP, les clubs européens, les sélections nationales, bref, il y en a un peu pour
On adore.
tous les goûts. Et puis, Guillaume, on n'oublie pas non plus les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur
Exactement.
Spotify. On remercie d'ailleurs, j'ai découvert un truc. Il y a des gens. Sur Spotify, on peut faire des commentaires sur les podcasts. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a plein de gens qui nous ont laissé des commentaires que je n'avais pas vus. Donc, merci à eux. Merci pour tous les gens qui nous mettent des petits commentaires sur Spotify. Ça fait plaisir également. Et puis, nous, Guillaume, on se retrouve pour un prochain épisode. On n'a pas encore le sujet, mais ne vous inquiétez
Mais
pas.
On revient
Voilà,
bientôt.
on va trouver pas mal de choses encore à dire sur notre cher football italien. Merci à toutes et à tous et à très vite. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.